Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis, la une de l'hebdomadaire, le révélateur ukrainien, politique, mobilisation, énergie. Bonjour Denis Schiffer.
Bonjour.
Votre édito, donnez aux Ukrainiens ce qu'ils demandent et vous vous interrogez combien de temps prendra la défaite du dictateur russe selon votre propos.
Oui, je pense qu'effectivement, au bout, disons, de ce conflit, il perdra et il se perdra. Mais effectivement, le facteur temps est essentiel parce que on a une double course contre la montre, à la fois l'effet des sanctions, c'est-à-dire quand les sanctions agiront sur le pouvoir russe et fragiliseront réellement Poutine, et puis évidemment la résistance des Ukrainiens et la guerre de plus en plus intense de l'armée russe en Ukraine. Et là, les temporalités sont hélas pas les mêmes, c'est-à-dire que avant que les sanctions fassent leur effet sur Poutine lui-même, celui-ci a largement le temps de détruire toutes les villes ukrainiennes. Et c'est bien ça le problème. Alors même si, au bout du compte, on peut penser qu'il perdra, il perdra même s'il anéantit l'Ukraine parce que il se trouve dans une situation d'occupation qui est absolument invivable pour une Russie qui est de toute façon déjà affaiblie et qui n'a pas les moyens d'occuper un peuple qui lui sera évidemment hostile. Mais tout ça, effectivement, en fonction de ces temporalités différentes, peut ce temps nécessaire à l'affaiblissement de Poutine peut se compter non pas en semaines et en mois, mais aussi en nombre de morts, hélas.
Et vous écrivez que les Ukrainiens n'ignorent pas que lorsque Poutine n'avance pas au rythme prévu, quand ses chars ne parviennent pas à s'emparer des villes, quand les combats de rue ne tournent pas à sa avantage, il passe à une autre guerre.
Oui, on a vu ça bien sûr en Tchétchénie d'abord, avec l'anéantissement de Grozny, la capitale de Tchétchénie, et puis on a vu ça aussi en Syrie avec Alep, avec la Ghouta orientale qui est dans le lieu de Damas, où les bombes se sont abattues. C'est-à-dire que à ce moment-là, Poutine, voyant que ses chars n'avancent pas au rythme voulu, que les combats de rue ne lui sont pas favorables, il passe ce que les militaires appellent le tapis de bombe. Et là, c'est l'anéantissement. On vise en priorité ce qu'il commence à faire déjà, hein, les hôpitaux, enfin les services publics, les infrastructures, voire les écoles. Et c'est évidemment particulièrement dévastateur et sanglant. C'est le paradoxe de la résistance ukrainienne qu'on ne peut évidemment qu'encourager. C'est-à-dire que c'est eux qui en décident. Mais effectivement, leur résistance peut amener à ce que j'ai appelé des oradours sur glane, hein, parce que c'est ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est les actes de résistance qui ont été réprimés au centuple par les nazis et qui ont donné, par exemple, le massacre d'oradours sur glane.
Vous évoquiez les sanctions économiques qui pourraient bien entendu avoir des retombées sur les auteurs de ces sanctions. On ne veut pas mourir pour Kiev, mais on peut accepter de souffrir pour elle, écrivez-vous.
Oui, c'est-à-dire que d'une certaine façon, et en dépit disons, du discours diplomatique qu'on peut comprendre, nous ne sommes pas en guerre, etc., et ne pas tomber dans le piège disons, de la co-belligérance, mais nous sommes en guerre quand même. C'est une guerre qui, pour l'instant, ici, Dieu merci, n'est pas la guerre des armes directement sur notre sol, mais on risque d'avoir une guerre économique aux effets très très lourds sur notre économie et sur nos sociétés. Donc ça, et en particulier la question de l'embargo sur le gaz et le pétrole qui va se discuter et qui se discute au sommet de Versailles en cette fin de semaine. Tout ça, effectivement, risque d'avoir des inconvénients en retour sur nos économies. Alors la question est de savoir si on est prêt à souffrir, de toute façon, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est pas la souffrance des Ukrainiens, hein, mais ce sont des privations et probablement une grande sobriété dans la consommation énergétique qui d'ailleurs pose le problème de l'écologie, en fait, nous ramène à des questions qui nous sont familières, mais dans un état d'urgence qu'on n'avait pas imaginé.
Et les enjeux démocratiques de cette guerre sont aussi les nôtres, soulignez-vous.
Oui, parce que évidemment, quand je dis on ne peut pas mourir pour Kiev, on peut accepter de souffrir pour Kiev, c'est une formule, mais qui n'est pas tout à fait exacte finalement, parce que c'est aussi pour nous-mêmes. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est la guerre de Poutine est une guerre contre la démocratie, est une guerre contre des modes de vie et contre la contagion démocratique qu'il redoute à partir de l'Ukraine pour la Russie même et pour son pouvoir. Donc c'est aussi ça que nous défendons. Donc c'est aussi un enjeu pour nos sociétés à nous. Et effectivement, ça doit être assez motivant en principe pour nos sociétés, à condition que l'Europe d'une part et nos gouvernements d'autre part fassent en sorte que ce ne soient pas les plus modestes ou ceux dont les professions, disons, sont les plus consommatrices d'énergie, de pétrole en particulier, d'essence, qui payent la facture, et que ça soit mutualisé dans la société. Et donc ça pose la question de l'égalité sociale. Donc on voit que ça ramène, contrairement à ce qui est dit ici ou là, qu'on nous a volé la campagne électorale, moi je crois un peu tout le contraire. Je pense que ça ramène sous une forme qui était évidemment inattendue à tous les problèmes, disons, de la campagne électorale et des inégalités au sein de notre société.
Et sur ce sujet, il y a une prise de conscience, selon vous, des différents candidats?
Je ne sais pas s'il y a une prise de conscience des différents candidats. Bon, il y a un candidat qui se singularise, qui est Mélenchon, qui appelle à la paix, etc. Mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Quand on est face à Poutine, est-ce que c'est la paix de Poutine? Donc c'est ce que ça veut dire rendre les armes, tout abandonner. Au fond, là vraiment, je le dis plusieurs fois d'ailleurs, c'est les Ukrainiens qui doivent nous dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de nous. Mais je pense que progressivement quand même, il va y avoir une prise de conscience sur les nécessités d'une plus grande sobriété dans la consommation énergétique. Et je ne sais pas si ça sera admis, si ça sera bien expliqué, s'il y aura une vraie pédagogie de ça, mais en tout cas, c'est vers ce vers quoi on s'oriente si on veut agir là-dedans, si on veut pas simplement subir le diktat de Poutine, qui tôt ou tard, disons, nous retombera dessus.
Merci, Denis Siffert.
Merci à vous.
Votre édito dans Politis, donner aux Ukrainiens ce qu'ils demandent, et la une de l'hebdomadaire, le révélateur ukrainien, politique, mobilisation, énergie.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.